Europe 1 Culture Média. 9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Content de vous retrouver pour Culture Média au menu Média et Culture au sens large. Tous les médias et toutes les formes de culture, de Netflix à Hélène Ségara, avec ce point commun entre les deux, des gens qui savent ce qu'est un énorme succès populaire. Nos indispensables du jour, une découverte musicale et la programmation des Un Rock Festival. Et puis on va parler littérature autour de Stevenson, génie visionnaire qui a écrit L'île au trésor ou encore Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais saviez-vous qu'il avait aussi signé un carnet de voyage en France. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre infomédia va se pencher sur les débats des élections régionales et départementales, mais autour d'une chaîne régionale, d'un réseau même, et quel réseau ? France 3. Hier, pendant que LCI organisait le débat dans les Hauts-de-France, pas moins de 12 débats se déroulaient simultanément dans toutes les régions et donc toutes les stations de la 3. Bilan et perspective avec Valérie Giacomello, elle est la directrice de l'info régionale. Nos invités ensuite, Damien Couvreur, directeur de la création pour Netflix France. Il est certainement le décideur le plus courtisé du cinéma français et même de la fiction en général. La partie 2 de Lupin, série phénomène avec Omar Sy, démarre demain vendredi et il annonce aussi une rafale de nouveautés. Enfin, la chanteuse Hélène Ségara pour son nouvel album Karma, dont elle a écrit toutes les paroles et qu'elle a conçu comme un long métrage sonore. Je ne vous dis que ça. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Et bonjour Luce Bernard.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Antoine Janton.
Salut Philippe, bonjour à tous.
Antoine, au sommaire de votre journal des médias.
Un nouveau présentateur pour Complément d'enquête sur France 2, un journaliste d'investigation. Emmanuel Macron sur BFM TV aujourd'hui, interview en direct en début d'après-midi. Et puis direction la Corse dans ce journal pour le nouveau numéro de Top Gear France avec 2 nouveaux animateurs.
Mais d'abord les audiences avec vous Luce Bernard. Hier M6 a réalisé une première pour saluer la réouverture des salles de restaurants et aussi le couvre-feu repoussé de 21h à 23h, c'était en même temps, la chaîne a acheté des pages de pub dans la presse avec cet anti-slogan « Ce soir, ne regardez pas Top Chef sur M6, même si c'est la finale ». Alors, est-ce qu'M6 a été entendu ?
Des pages de pub et des bandes-annonces qui circulaient sur les réseaux sociaux, sur la chaîne. Non, ça n'a pas été entendu, pardon, je me suis embrouillée.
C'était déjà une phrase interrogative.
Oui, bref, je vous donne le score, ça va être plus simple. Top Chef est leader hier soir, donc les gens ont quand même regardé Top Chef, cette finale. 3 160 000 téléspectateurs, 17,8% de part d'audience. Alors c'est moins bien que la saison précédente, mais qui avait attiré presque 4 millions de téléspectateurs. En revanche, c'est mieux que la saison 10, que la 9, que la 8. La part d'audience est d'ailleurs très bonne, donc c'est qu'il y avait peut-être un peu moins de monde effectivement devant la télé ce soir-là. Mais par rapport aux gens qui regardaient la télé, c'est une très bonne performance.
Et puis on fera le point aussi la semaine prochaine avec les audiences consolidées, puisqu'M6 appelait les gens à regarder Top Chef en replay. Donc on aura un chiffre plus intéressant et plus précis, plus parlant la semaine prochaine.
Voilà, on vous donnera le chiffre. Ensuite, France 2, c'était la fin de la saison 6 de la série Nina. 2 épisodes inédits qui ont attiré 3 100 000 téléspectateurs, 15,5% de part d'audience. C'est un bon final pour France 2. C'est des chiffres similaires au lancement, avec une part d'audience là aussi supérieure. Donc c'est encore une fois qu'il y avait moins de monde devant la télé, mais les gens ont regardé quand même ce final. Et puis TF1, 3e place pour Esprit Criminel qui se maintient. 3 100 000 téléspectateurs. Alors c'est le même score que France 2, mais c'est parce qu'on arrondit, donc c'est un petit peu moins en réalité. TF1 est bien 3e, 15,3% de part d'audience. À noter le score catastrophique de France 3 qui proposait des débats sur les élections régionales. 606 000 téléspectateurs seulement, 2,9% de part d'audience. France 3 qui est donc derrière M6, TF1, France 2, W9, Arte, Sister. Arte qui a réalisé un très bon score avec le film Le Nom des gens, 1 530 000 téléspectateurs devant ce film qui est très drôle, il faut le dire.
Et Valérie Giacomello, la directrice de l'information régionale de France 3, sera avec nous dans quelques instants.
Culture Média.
On passe au journal des médias, Antoine Janton, avec à la une un nouveau présentateur pour Complément d'enquête.
Tristan Valex, c'est lui qui présentera cette émission d'investigation de France 2 à la rentrée. L'annonce en a été faite hier, une émission que ce journaliste connaît bien et qu'il est très heureux de retrouver. C'est ce qu'il a dit à Culture Média juste après avoir appris sa nomination.
Cette nomination aujourd'hui, elle m'émeut parce que Complément d'enquête, c'est l'émission qui m'a fabriqué. C'est au sein de cette émission que j'ai appris à faire du magazine et à faire de l'investigation. J'ai été recruté à l'époque par Benoît Duquesne, qui est le fondateur de cette émission et qui m'a appris cette exigence, cette envie de penser contre soi-même, de faire des sujets qui soient compliqués et de jamais se tomber dans la facilité. Ce que je vais essayer d'accentuer au sein de Complément d'enquête, ce sont des choses qui existent déjà aujourd'hui avec une formidable équipe de reporters, c'est continuer dans cette exigence de faire du journalisme ambitieux, audacieux et d'intérêt général.
Voilà, Christian Wallex, qui travaille pour Envoyé spécial actuellement et qui a été choisi parmi de nombreux autres candidats. Il a été retenu pour son expérience et pour son travail d'investigation. Récompensé il y a 4 ans, il avait reçu l'un des prix les plus prestigieux du journalisme, le prix Albert Londres, pour une enquête sur Vincent Bolloré. Plus récemment, il a travaillé sur l'affaire Big Malion et sur l'affaire Pénélope Fillon. Sa nomination confirme la place importante de l'investigation sur le service public. Un bon signal, selon lui.
On est dans un contexte un peu particulier d'un point de vue médiatique. On est à 1 an de la présidentielle. Il y a une volonté de la part de France Télévisions d'afficher une indépendance totale, un journalisme qui peut gratter. Ça reste une émission généraliste, un complément d'enquête. Il n'y aura pas de l'investigation politico-financière chaque semaine. Mais néanmoins, je pense que c'est un bon message. Il y a, je pense, de la part de France Télévisions, la volonté de marquer sa différence par rapport à d'autres concurrents qui n'ont plus forcément la chance de pouvoir mettre à l'antenne des enquêtes ambitieuses et du vrai journalisme d'intérêt public.
Tristan Wallex au micro de Culture Média, il prendra ses fonctions à la rentrée, je vous le disais. D'ici là, Complément d'enquête continuera à être présenté par Jacques Cardoz, qui lui va quitter le journalisme et devenir le directeur de communication de l'Olympique de Marseille. C'est lui, Jacques Cardoz, qui sera à l'antenne ce soir. Au sommaire, cancel culture, minorité, qui sont les nouveaux censeurs? Rendez-vous à 22h55 sur France 2.
Une interview du président pour BFM TV.
Emmanuel Macron sera en direct sur la chaîne Info en début d'après-midi à 14h30. Un entretien réalisé à l'occasion de sa visite à Clairefontaine pour saluer les joueurs de l'équipe de France de football à la veille du début de l'Euro. Il sera mené cet entretien par Mohamed Bouefsi et Jean-Louis Tour, deux journalistes sportifs du groupe Altice à qui appartient BFM.
Autre chaîne du groupe Altice, RMC Découverte, qui diffuse ce soir un nouveau numéro de Top Gear et c'est notre focus programme du jour.
Et Top Gear, vous la connaissez peut-être, cette émission pour les passionnés de voitures en tout genre dans laquelle les présentateurs se lancent des défis, affrontent des épreuves, participent à des courses presque toujours loufoques. Une émission tournée un peu partout dans le monde ces dernières années, en Afrique du Sud, au Japon, au Maroc, au Pérou entre autres. Mais cette saison, moins de déplacements, sans forcément perdre au change. Exemple, ce soir, direction la Corse, l'endroit idéal pour un road trip d'après Bruce Jouani, pilote et co-animateur de l'émission.
Ça reste, je pense, un de mes meilleurs souvenirs de road trip, principalement à cause du lieu. Voilà, l'île de Beauté est absolument grandiose. On a fait le Nord, que j'adore aussi, et voilà, c'était vraiment chouette. Les routes sont magnifiques, mais les chemins aussi sont magnifiques. Et on a été accueillis à bras ouverts par les locaux, et du coup, voilà, on a vu ce succès de petits cols de montagne en paysage absolument magnifique, avec quelques embûches, parce que les chemins, parfois, ils sont un petit peu esquintés. Donc ça tombait très bien, parce qu'on avait des 4x4.
Des 4x4 qui ne passent pas facilement partout, même eux frottent quand même sur le sol dans certains petits chemins corses. Top Gear en Corse avec une équipe spéciale de présentateurs. L'un des 4 titulaires était absent, Letone, positif au Covid. Il a été remplacé par Estelle Lefébure, excellente copilote. Elle a déjà participé au Trophée Andros et au Rallye des Gazelles de courses automobiles. Autre petit nouveau, Vincent Lagaffe, qui a remplacé pour quelques séquences Philippe Lelouch. Lui devait jouer au théâtre. Luc Alphand et Bruce Jouani, eux, étaient bien là. Bruce Jouani qui n'a pas été franchement perturbé par ces changements.
Mes deux autres acolytes ne m'ont pas manqué du tout. Ça fait 7 ans que je me les tartine absolument toutes les émissions. Non, je plaisante. Le trio avec Philippe et le quatuor avec Luc, ça marche très bien. Donc c'est vrai que ça faisait un petit peu bizarre d'être avec d'autres gens. Finalement, ça a bien rigolé. On n'a pas fait que manger de la charcuterie corse. On a fait des trucs vraiment sympas. On a terminé 2 nuits parfois dans des endroits vraiment reculés. Et on a vécu une vraie belle histoire humaine. C'est le propre du road trip. Et c'est ce qu'on a eu la chance de vivre de nouveau là en Corse.
À voir ce soir dans Top Gear, une course bateau contre voiture, une épreuve chronométrée dans une sablière et le test de SUV dans les chemins les plus escarpés de l'île, loufoque, je vous avais dit. Ouais. France Top Gear France en Corse est donc à 21h05 sur RMC Découverte.
En crise, 20 minutes change et réduit sa diffusion.
Le journal gratuit ne sera plus distribué que 3 jours par semaine au lieu de 4 jusqu'à présent. Il sera disponible le lundi, le mercredi et le vendredi, une décision qui est la conséquence directe de la crise sanitaire. Elle a fait chuter le chiffre d'affaires du journal, moins 30%. 38% l'an dernier. Pour tenter de remonter la pente et au-delà de cette diffusion réduite, 20 minutes lance aussi une nouvelle formule, nouvelle identité graphique en particulier. Et le journal mise encore plus sur le numérique avec un nouveau site qui doit arriver l'an prochain.
Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver avec d'autres sur notre site europe1.fr. C'est gratuit, il suffit de s'inscrire. Merci beaucoup Antoine Genton. Merci beaucoup Louise Bernard. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour qui s'intéresse au réseau régional de France 3 qui déploie les grands moyens à l'occasion des élections départementales et régionales. On en parle avec Valérie Giacomello, elle est directrice de l'information régionale sur France 3.
Europe 1 Culture Média, l'émission de référence sur les médias. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Ce sont deux scrutins qui correspondent particulièrement bien à sa mission, informer au plus près ses téléspectateurs. Le réseau régional de France 3 a déployé de grands moyens pour couvrir ces élections. Élections départementales et régionales dont le premier tour est prévu dans 10 jours. Près de 120 débats en direct, dont 12 simultanés hier soir. Et près de 2000 reportages proposés dans les journaux régionaux de la chaîne publique. Une démonstration de force presque, alors que la concurrence des chaînes privées vient un peu bousculer ce réseau en pleine réorganisation et en pleine mutation. Bonjour Valérie Giacomello.
Bonjour Philippe Vondel.
Vous êtes la directrice de l'information régionale de France 3. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces élections pour France 3 en dehors du fait d'être régionale ?
Alors, tout dépend du temps dont je dispose, parce que je peux vous en parler longtemps. Parce qu'effectivement,
il y a Anne Roumanoff à 11h, donc il faut quand même faire
d'accord,
court.
D'accord. Le premier point, c'est d'abord qu'il y a en fait au moins deux scrutins différents, si ce n'est un troisième, si on pense au territorial en Corse. Donc déjà, effectivement, nous avons dû travailler sur des dispositifs qui puissent s'emboîter, si je peux employer ce mot, et qui soient complémentaires. Les deux scrutins, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très technique, mais les deux scrutins sont différents. Donc de toute façon, nous avions déjà un rôle pédagogique à jouer. Nous avons encore, parce que ce n'est pas fini, mais on va dire que nous essayons depuis plusieurs semaines de jouer ce rôle pédagogique déjà. Et puis le deuxième rôle qui est vraiment le nôtre, celui du service public et dont je suis très fière, c'est qu'effectivement, nous donnons à voir, à entendre, que ce soit les différences entre les différents candidats, que ce soit les listes ou les binômes sur les départementales, nous donnons à entendre ces débats, les arguments, comment les propositions, les programmes seront financés au plus près. Donc effectivement, la série de débats a commencé alors il y a déjà une semaine avec le débat des Hauts-de-France, le 2 juin. Et il y avait tous les candidats sur le plateau. Quand effectivement, et moi je vais vous parler des audiences parce que j'ai entendu un petit mot tout à l'heure avec votre journaliste qui m'a quand même un peu fait sursauter.
On va dire le mot, Louise Bernard a dit que les audiences étaient catastrophiques, 606 000 téléspectateurs en moyenne.
Oui, oui, alors effectivement, on peut le lire comme ça, si vous voulez.
Parce
qu'effectivement,
bon.
Parce qu'effectivement, par rapport à la case habituelle des racines ou de ce type de programme de découverte, on peut considérer que c'est pas bon.
Habituellement, la case fait combien ?
Oh, alors les racines, c'est trois fois plus.
D'accord, voilà.
Globalement, si je résumais. Mais très honnêtement, dans le débat citoyen et dans notre rôle citoyen, dans notre rôle de mission de service public, les audiences, ce n'est pas le sujet. Très clairement. Et moi, ce que j'ai vu hier soir sur toutes nos antennes, ce que j'ai vu la semaine dernière à Lille, puisque je m'étais déplacée à Lille, moi, j'en suis fière et je suis très fière du travail qui a été fait par les équipes.
Le chiffre d'hier ne vous a pas inquiété ? Enfin, le chiffre de ce matin de l'audience d'hier ne vous a pas inquiété ?
Mais bien évidemment qu'on préférerait faire 15 sur une soirée de débat.
Tout le monde, évidemment. Ma question était, est-ce que ça vous inquiète ou pas ? Est-ce que vous dites quand même on est en dessous du million ?
Non, parce que de toute façon, c'est une partie des audiences uniquement. Parallèlement, ces débats sont rediffusés dans Deux Nuits de la Démocratie sur France Info Canal 27. Donc ça a commencé la nuit dernière, c'est de nouveau le cas ce soir. Donc ces débats, ils peuvent être vus effectivement par des gens qui hier soir, soit avaient envie d'être sur les terrasses si on regarde le nombre de téléspectateurs bruts, soit effectivement avaient envie de voir de la pâtisserie sur une chaîne concurrente, etc. Et puis il y a tous les replays. Donc ça, il ne faut pas oublier cette partie-là.
Je souris, la pâtisserie, c'était la finale de Top Chef. On va commencer par parler des régionales et de parler du dispositif de France 3 avec un mot plus général. Souvent, on essaie de trouver une portée nationale aux élections locales, c'est encore le cas cette année. Pourtant, ce sont d'abord évidemment des élections locales, vous les rappelez, et c'est ce que rappellent régulièrement tous les candidats, même ceux qui ont des ambitions nationales. Et voici à ce sujet la réaction de David Pujadas, qui va présenter les débats sur LCI. Il était l'invité de Culture Média avant-hier.
Je dis qu'évidemment, les régionales ont un caractère régional et que dans ces débats, on va parler évidemment des compétences, des thèmes qui sont les compétences de la région. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles ont un écho national. C'est évident avec tout ce qui s'est passé en PACA, mais c'est évident en Île-de-France où il y a évidemment un enjeu national, par exemple pour Valérie Pécresse, qui espère creuser un écart et se donner une dynamique. Il y a un enjeu national pour le Rassemblement national. Si le Rassemblement national gagne une région, ce sera un séisme et ça donnera aussi une certaine couleur à la pré-campagne présidentielle.
Vous êtes d'accord avec lui ?
Alors, je veux dire, David Pujadas travaille pour une chaîne qui est une chaîne nationale. Le réseau France 3, il est ancré dans les territoires et les débats, que ce soit sur les départementales, les deux lundis et mercredi prochain, ou que ce soit sur les régionales, nous sommes ancrés sur les préoccupations des territoires. Moi, quand j'entends débattre des différences et des propositions très concrètes sur des départements comme le Cher lundi dernier, ou comme la Marne, ou hier soir, effectivement, sur les différences sur un territoire comme Auvergne-Rhône-Alpes, notre sujet n'est pas de savoir si un tel ou un tel a des ambitions nationales en réalité. C'est vraiment de répondre aux préoccupations des citoyens en proximité sur leur territoire.
Hier, 12 débats au même moment sur France 3 dans 12 régions. Comment cela s'est-il passé? Comment les avez-vous surveillés? Vous allez nous répondre, Valérie Giacomello. Vous êtes la directrice de l'information régionale de France 3 et vous êtes avec nous dans Culture Média. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Valérie Giacomello, notre invitée, elle est la directrice de l'information régionale de France 3. France 3 qui fait beaucoup pour les élections régionales et aussi départementales. Hier soir, LCI, on l'a dit, diffusait un débat, celui des Hauts-de-Seine. Un débat, mais France 3 proposait 12 débats au même moment dans 12 régions. Il manquait donc les Hauts-de-France sur LCI. Mais dans cette région, le débat avait été déjà diffusé par vous la semaine dernière. 12 débats donc qui ont été retransmis à la même heure, à 21h, sur les antennes des régions concernés. On a fait un petit medley parce qu'il y a un débat par région.
Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Paris-Île-de-France pour ce tout premier débat de la campagne des régionales.
Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 Normandie pour débattre des grands thèmes de notre région.
On est sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes pour le grand débat d'avant-premier tour.
Bienvenue dans ce grand débat des élections régionales en Occitanie. Soyez les bienvenus sur France 3 Bretagne pour cette soirée exceptionnelle qui nous permet justement d'évoquer l'avenir de la région qui va se jouer dans les urnes les 20 et 27 juin prochains.
Pendant la diffusion de ce petit medley, on n'a même pas pu mettre les 12. Valérie Giacomello me dit, ça a de l'allure.
Bah oui, franchement, merci pour ce medley.
Bah ouais, il faut montrer ce qui est le point de vue éditorial. Comment ça se passe? C'est vous à Paris qui donnez les grands axes, comment ça se passe?
Alors, nous avons choisi effectivement un créneau, puisque ça se construit sur une grille dans son ensemble, ça vous le savez, en radio c'est la même chose. Nous avons préconisé qu'effectivement ce soit en extérieur, que ce soit dans des lieux qui soient au plus proche du public ou représentatifs effectivement de l'enjeu du scrutin.
Je précise qu'à l'image, c'était souvent très très beau.
Oui, je vous le confirme. Moi aussi, j'étais là aussi ouais. Très fière. Autre point de fierté. Et je vais vous citer un exemple. Quand les équipes s'installent sous la halle de Mirepoix en Ariège, non seulement c'est beau, mais en plus, on est dans un lieu, on est dans un territoire. On n'est pas enfermé, effectivement, dans un studio. Et nous sommes vraiment, vraiment, vraiment dans notre rôle. Donc, voilà.
Le conducteur est fait comment? C'est un conducteur qui est fait à Paris et qui dispatche partout dans chaque région?
Alors,
ou est-ce que
tout.
Chaque région s'organise?
Pas du tout. Chaque région s'est organisée en fonction également des thèmes qui sont les préoccupations fortes de la zone concernée, parce que les régions sont bel et bien différentes. Je veux dire, parfois on parle des spécificités régionales. Elles sont réelles, ce n'est pas une vue de l'esprit. Et chaque rédacteur en chef a construit son émission selon ce qui lui semblait pertinent. Par exemple, en Bretagne, c'était un exemple très intéressant, ils ont alterné des tables rondes avec les candidats, et puis des petits face-à-face sur un temps très limité pour justement aller sur... les différences, qu'est-ce qui vous différencie dans vos programmes alors qu'on pourrait penser qu'éventuellement vous êtes proche?
Petite question technique, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au multiplex de Canal+, quand il y a les 10 journées de championnat en même temps, et puis on a le but par but, il y a une petite sonnette pour nous dire qu'il y a un but. Comment vous-même, qui êtes la patronne, si j'ose dire, vous avez surveillé 12 débats en même temps? Vous et aviez des alertes de vos équipes alors, qui disaient attention, il vient de se passer quelque chose là ou là?
Alors, en partie, mais par ailleurs, tout simplement, j'ai envie de dire à la fois devant ma télé, parce que je me suis dit, si je vais dans un endroit, pour le coup, je ne pourrais pas voir les autres. Donc, à la fois devant ma télé, puis avec ce qu'on appelle maintenant le double ou le triple écran, c'est-à-dire l'ordinateur, le smartphone, etc. etc.
Et je précise que tout ceci est à voir, évidemment, en replay. Alors, pour les départementales, France 3 organise pas moins de 90 débats répartis en 3 soirées, lundi dernier, lundi et mercredi prochain, là encore en diffusion simultanée, ce qui fait des centaines de candidats. Même techniquement, dans la logistique, comment faites-vous pour tous les accueillir ?
Les candidats ?
Ouais, et toutes ces émissions, comment ça va se passer ?
Alors, c'est une belle mécanique, mais là aussi, si vous voulez que j'aille, il va me falloir 2 heures. Non, d'abord, nous avons tenu sérieusement à avoir un débat par département. Mmh. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et là aussi, la proximité était notre préoccupation principale. Après, le CSA émet une délibération qui fixe un principe d'équité. C'est-à-dire qu'effectivement, nous n'avons pas l'obligation absolue d'avoir tous les candidats sur nos plateaux, parce que parfois, c'est objectivement compliqué. Et puis, c'est un scrutin par canton, alors qu'on parle d'un département dans son ensemble, etc., etc. Mais c'est une très belle mécanique à mettre en place, y compris sur le plan technique. Ouais. Et là, je dois dire que c'est... Oui, nous sommes la force du réseau. Chacun s'investit énormément sur ces périodes, parce que nous sommes convaincus de notre rôle.
Alors, ces décrochages régionaux et départementaux, on va les retrouver pour les soirs électorales des premiers et second tours, les 20 et 27 juin prochains. La couverture de ces élections passe aujourd'hui dans les journaux, j'y arrive, régionaux de France 3, vivement qu'on puisse retirer ses masques. La chaîne annonce la diffusion de plus de 2000 reportages d'ici le second tour, le 27 juin. La campagne se déroule, je vous apprends rien, dans un climat de plus en plus tendu. Comment elle se passe sur le terrain pour vos journalistes ? Est-ce qu'il y a également des tensions, comme on peut les voir dans tel et tel reportage d'autres chaînes ?
Alors, j'allais dire, je vais croiser les doigts. Pour le moment, ça se passe plutôt sereinement, plutôt bien. Ça n'empêche pas parfois des interpellations ici ou là. Je reste prudente parce que la campagne n'est pas finie. Mmh. Mais je crois que le professionnalisme des équipes sur le terrain, leur connaissance du terrain et des candidats, dans la plupart des cas, leur connaissance de la proximité aide quand même. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un aller-retour pour repartir et laisser derrière soi une difficulté supplémentaire.
Vous savez ce qui me frappe ? Je vois que vous mesurez chaque mot et je me dis c'est la première fois qu'on pose ce genre de questions qui ne devraient pas avoir lieu d'être posées depuis 1958, ouais, que les élections existent, ouais, un petit peu de cette manière, la 5e République. France 3 n'est pas la seule évidemment à organiser des débats pour les régionales. Je l'ai dit, il y a LCI, 3 débats en tout sur LCI. Il y a également BFM Région, débat pour les régionales et pour les départementales. Au-delà de ces rendez-vous, est-ce que l'arrivée de ces chaînes locales privées avec un format info en continu vous a poussé à réagir et à changer votre politique éditoriale ?
Alors, la politique éditoriale, non. Et puis, poussé à réagir, j'ai envie de dire, moi, la concurrence, alors, comme je ne suis plus tout à fait toute jeune, j'ai connu aussi la période en région, à l'époque, vous savez, des équipes de M6, en l'occurrence, oui, pour les citer. Et puis, voilà, on sait ce que c'est devenu. Moi, je souhaite tout le bien du monde. Je souhaite tout le bien du monde, effectivement, aux nouveaux concurrents. La concurrence, c'est sain. Ouais. De toute façon. Et est-ce que nous nous interrogeons sur notre ligne éditoriale ? Non, parce que c'est la proximité, mais nous pouvons encore l'améliorer. Et là, je voudrais juste dire une chose, pardon. Vous parlez télé, télé, télé. France 3, c'est aussi du numérique.
Tous aussi. Si on parle d'LCI ou si on parle de BFM, c'est aussi du numérique.
On tout est le d'accord. Monde, hein. Mais notre offre éditoriale, elle est aussi en train d'évoluer et de se développer sur le plan numérique. Et c'est tout aussi important. Vous avez cité un nombre de reportages, mais la couverture de la campagne, la couverture des élections, elle se joue aussi sur ce terrain-là.
Voilà, je vais dire d'un mot, les éditions régionales, les décrochages régionaux d'M6, ça n'existe plus.
Bah, ils ont un peu fait pchit.
Les chaînes de BFM Région ont un modèle très très clair, info, trafic, météo, évidemment vous les avez regardées. Qu'est-ce que vous avez gardé ? Est-ce qu'il y a des choses, des éléments que vous avez repris ?
Alors, repris, je ne dirais pas ça, parce qu'on a quand même un petit peu d'antériorité. Je le dis avec un sourire, ça ne se voit pas derrière le masque, mais ouais. Quand même. Non, l'infoservice, c'est une attente. C'est une attente, effectivement, des citoyens, c'est une attente des habitants, c'est une attente d'être utile. Comment, effectivement, pouvons-nous leur être utiles ? Donc, ce sont des éléments que nous travaillons, sur lesquels nous réfléchissons et que nous devons probablement davantage intégrer dans nos offres en proximité dans les régions.
Merci beaucoup Valérie Giacomello. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'information régionale de France 3. 120 débats pour les régionales et les départementales. Les prochains en direct, ce sera lundi prochain. Et évidemment, ils sont tous disponibles, vous l'avez dit, vous avez eu raison, en replay. Dans un instant, on va parler de soirée également, mais de journée et de replay, puisque nous serons avec le directeur des séries originales françaises de Netflix. C'est Damien Couvreur. L'occasion de parler avec lui des nouvelles créations de la plateforme, dont la deuxième partie de Lupin Phénomène, 76 millions de vue dans le monde. Et ça redémarre demain. À tout de suite.
L'émission référence sur les médias,
c'est Europe 1 Culture.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vondel.
Bonjour Damien Couvreur.
Bonjour Philippe.
Vous êtes directeur des séries, directeur de la création pour Netflix France. Autrefois, en 2016, quand Netflix avait lancé la série Marseille avec Gérard Depardieu, vous étiez deux salariés chargés des séries européennes à Netflix. Et encore, vous étiez dans les bureaux à Los Angeles, c'est bien ça ?
Exactement, oui. J'ai eu la chance de commencer là-bas et d'être aujourd'hui dans un bureau. On est une soixantaine de salariés à Paris.
Ça va être ma question. Plus de 7 millions d'abonnés en France, même si le chiffre reste secret, et une soixantaine de salariés. L'actualité de Netflix, c'est la partie 2 de Lupin, série phénomène avec Omar Sy qui démarre demain vendredi, puis toute une rafale de nouveautés qui arrivent. On va en parler. Lupin, c'est l'un des grands succès de Netflix en France et dans le monde. C'est la série la plus regardée sur la plateforme cette année. Vraiment, le chiffre, c'est combien ?
76 millions de foyers qui ont regardé la première partie de Lupin depuis le mois de janvier.
Et donc Lupin, c'est pas fini puisque la seconde partie de la première saison, si j'ai bien compris, arrive demain. Bande annonce.
Ça va trop loin cette histoire. Pellegrini a kidnappé mon fils. Il va payer pour ça.
Vous le connaissez ?
Bah évidemment. Hassan Diop.
D'après la police, il s'agirait Hassan Diop,
l'homme le plus recherché de France.
Maintenant, on disparaît.
J'aimerais beaucoup vous aider, mais j'ai peur que vous perdiez votre temps. Ça ne viendra pas.
On m'a piégé et je suis pas coupable.
La fondation a été volée, mais nous refusons d'être intimidés.
Vous pensez que Diop pourrait venir ?
Diop a le sens du spectacle. Et il viendra jusqu'à nous.
On est prêts ? Place à la magie.
Waouh, c'est du Netflix, Lupin en chiffres très impressionnant, 76 millions de foyers dans le monde ont regardé Lupin. Toute la série, 5 minutes, 10 minutes, comment vous les comptabilisez ?
Alors en fait, la façon dont on comptabilise, c'est les gens qui regardent 2 minutes de la série, donc c'est-à-dire qu'ils se lancent dans la série. Après c'est vrai que, je pense que vous voyez dans les conversations qui ont suivi le lancement de la série, qu'il y a beaucoup de gens qui effectivement vont jusqu'au bout et qui attendent demain matin avec impatience pour découvrir la suite de cette première saison.
Ah oui, mais c'est pas comme l'audience télé, parce que l'audience télé, quand un film fait 4 millions, c'est 4 millions de personnes sont à peu près allées jusqu'au bout. Si quelqu'un reste que 2 minutes, il ne compte pas dans ces 4 millions.
Non, exactement, voilà. Nous, on a vraiment une mesure qui est sur qui est une mesure qui est utilisée dans de nombreux pays et qui est un indicateur relativement fiable.
Première série française qui entre dans le top 10 américain, vous le confirmez ?
Je le confirme avec le sourire qu'on ne voit pas derrière le masque.
Alors évidemment, ça c'est pour la télévision, pour les écrans, mais ça déborde du cadre des écrans. 140 000 exemplaires des livres de Maurice Leblanc, le créateur d'Arsène Lupin, ont été vendus en France depuis la sortie de la série. Ça s'est documenté. La nouvelle édition officielle de Lupin, Gentleman Cambrioleur, est restée en tête des ventes jeunesse pendant 10 semaines. Au passage, c'est vraiment une série tout public. C'est du polar, mais tout n'est pas vraiment réaliste comme du vrai polar.
Non, mais je comprends. Exactement. Et puis vous savez, c'est au départ, c'est la série d'un personnage. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'Hassan Diop qui s'inspire d'Arsène Lupin. Je pense que dans les clés du succès de la série, il y a à la fois ce personnage qui est un personnage attachant auquel on peut s'identifier, puis qui a le charme et qui nous emmène dans une grande aventure. Et puis il y a aussi, parce que nous, on fait des séries françaises ancrées en France, un ancrage culturel fort qui est ce livre. Et finalement, ce que traduisent les chiffres de vente du livre, c'est que le livre est aussi la star de la série.
Chiffre qui m'a laissé perplexe, qui m'a donné à réfléchir, 15,8 millions d'euros d'impact économique direct et indirect en France. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Je crois que ça veut dire qu'on est extrêmement implanté en France aujourd'hui. On a des productions, on lance pas loin de 30 contenus, séries, films, documentaires confondus cette année en France. Voilà, donc on est aujourd'hui dans un moment où Netflix en France est impliqué, intégré à l'économie culturelle et peut créer ces opportunités économiques.
Et puisque vous parlez de culture, je sais que vous êtes sensible à ce sujet. J'ai vu un soir aux 20h les habitants de la ville d'Étretat, ils se sentent envahis par les touristes. C'est-à-dire que, et qu'ils ne sont pas toujours très propres, vous êtes sensible à ce genre d'argument.
Ah, j'y suis surtout quand on retourne au Louvre après le tournage et quand on voit le sourire des équipes du Louvre parce qu'on a mis ce musée en lumière pour le monde entier. Et je crois que, comme beaucoup de Français, ils sont impatients d'accueillir à nouveau les touristes, notamment suite au succès de Lupin.
Voilà, ce que ça se passe en grande partie à Étretat, notamment avec l'Aiguille Creuse. Alors, donc la série incarné par Omar Sy, n'est pas Arsène Lupin, mais Hassan Diop, un fan des romans d'Arsène Lupin, un personnage joyeux, volubile, fantasque, voleur, mais qui ne tue pas, qui ne vole que les méchants. Très important pour vous aussi dans la série, et ça se voit et ça saute aux yeux évidemment, c'est la diversité.
Exactement, je crois qu'il y avait vraiment l'idée de se dire qui serait Arsène Lupin aujourd'hui. Voilà. Et ce qui est incroyable avec ce personnage d'Hassan Diop, c'est que son pouvoir, c'est son invisibilité. C'est quelqu'un qu'au départ, on ne voit pas et qui va savoir retourner cette invisibilité comme son super pouvoir pour pouvoir effectivement voler les riches. Et puis au-delà de voler les riches, parce que c'est le principe de Arsène Gentleman Cambrioleur, vraiment rétablir l'histoire de sa famille. C'est l'histoire d'un père dont le père a été floué et qui veut transmettre à son fils aussi un héritage familial. Et je crois que c'est des éléments très importants aussi au cœur du récit.
Il y a toute une dimension de paternité. On parlait de diversité. Il y a toutes les couleurs de peau dans Lupin, des hommes, des femmes, il y a des jeunes, des vieux. J'ai remarqué que les deux méchants, Dumont, le chef de la brigade qui enquête sur Hassan Diop, ou alors Pellegrini, le milliardaire, sont les deux seuls hommes blancs de plus de 50 ans. Il y a de la diversité, mais on est quand même dans le politiquement correct. Aucun méchant n'est issu d'une minorité. Pourquoi ce parti pris ?
Alors Philippe, je vous invite demain matin à 9h à regarder la partie 2. Je ne vais pas spoiler, mais vous verrez.
Alors j'ai vu deux épisodes de la partie 2 et les méchants sont des hommes blancs de plus de 50 ans. Alors, ça m'a frappé. Je me suis dit, tiens, c'est pas politiquement correct.
J'aimerais bien...
Dites-moi juste...
Non, mais pas du tout. Il n'y a aucune intention derrière ça. Très sincèrement, je ne veux pas spoiler les auditeurs d'Europe 1 et leur raconter l'histoire. Mais je crois que vous verrez qu'il y a plus de nuances que ça dès demain.
Beaucoup de nuances et aussi beaucoup de programmes qui arrivent sur Netflix. Lesquels ? Réponse avec Damien Couvreur, il est le patron des séries françaises originales sur Netflix et il est avec nous dans Culture Média.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Damien Couvreur, il est le directeur des séries françaises originales de Netflix et à ce titre, il est une des personnes les plus courtisées du milieu de l'image en France, évidemment, parce que les gens essaient de vous vendre leurs projets. Donc Lupin reprend demain. Juste un mot, c'est la partie 2, c'est pas la saison 2. C'est quoi la différence ?
C'est que c'est la fin de la même histoire. En fait, cette saison, elle est découpée en deux parties de 5 épisodes. On a vécu le Covid, les arrêts de production, les retours sur le plateau. Donc voilà, on avait envie de partager les 5 premiers épisodes dès qu'ils étaient prêts, la partie 1. Et puis là, vous allez découvrir demain, dès qu'ils sont prêts, puisqu'on était encore en train de travailler dessus il y a quelques semaines, la partie 2.
La suite, ce sera une saison 2 ou ça sera une partie 3 ?
Alors, on est vraiment dans les premières étapes de développement de la suite. On a repris l'organisation saison 1, c'est-à-dire l'histoire d'abord. Donc c'est vraiment ça qui dictera la façon dont on diffusera la suite.
En mars dernier, vous avez annoncé la sortie de pas moins de 27 productions françaises qui seront disponibles pour les abonnés tout au long de l'année. Quelles autres sorties ? On ne va pas citer les 27, mais il y en a une que j'attends. C'est drôle, pourquoi ? Parce que c'est une série créée par Fanny Herrero. Qui est Fanny Herrero ? C'est la créatrice de 10%. Je sais déjà quelques éléments. Ça se passe dans le milieu du stand-up. Vous êtes à quel stade du développement, de l'écriture, du tournage ?
Je vais vous faire une réponse très précise, Philippe. On en est à la deuxième moitié du tournage. Donc on est en plein dedans.
D'accord, voilà. Donc ça a commencé le tournage ?
Ouais, le tournage a commencé, ouais.
Et ça sera pour quand ?
Alors ce sera pour l'année prochaine parce que d'abord que Fanny est quelqu'un qui sait prendre le temps de créer ses histoires, voilà, et qui a pris le temps d'écrire, de développer cette première saison. Et puis vous savez, une fois qu'on a tourné, il faut monter, s'occuper du son, de l'image, de la musique, voilà. Donc c'est quelque chose qui va prendre du temps.
Et ce sera avec des vrais humoristes connus, patentés, ou avec des débutants ? Je pense par exemple à la série Validée, où il y avait un rappeur qui jouait le rôle du rappeur. Qui vont être les
caractères ? C'est vraiment un mélange. Je pense que d'abord, c'est une série pas uniquement sur le stand-up, c'est une série dans le milieu du stand-up et c'est très important parce que je crois que Fanny en fait avait des choses à dire aussi sur sur la société française et que c'était un moyen de s'emparer de ce sujet-là. Donc il y aura vraiment à la fois des professionnels du stand-up et des gens qui débutent, et puis l'histoire de la série et aussi l'histoire de gens qui ont réussi et de gens qui se mettent le pied à l'étrier. Donc ça, le casting sera le reflet de ça.
Y a qui dans le casting ? De noms qu'on connaît ?
Il y a alors le casting des rôles principaux, justement, et pas des acteurs que vous connaissez nécessairement. C'était aussi le parti pris de Fanny. Vous savez, chez Netflix, on aime à la fois avoir Omar Sy qui incarne Hassan Diop, et puis on aime justement donner l'occasion à de nouveaux visages d'éclore.
Et je vais vous citer, vous disiez vouloir, c'était dans Le Point le 30 mars, un article, miser davantage sur des histoires fortes avec un casting identifié. Un casting identifié en français courant, ça veut dire des vedettes.
Exactement, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je crois que la force de Netflix, c'est de pouvoir pouvoir faire les deux. On a des séries comme Mortel, comme Drôle, où finalement on révèle des talents, que ce soit derrière ou devant la caméra. Et puis on a des séries comme Family Business ou comme Lupin, avec des visages beaucoup plus connus. Voilà, je crois que c'est vraiment à la fois pour les membres de Netflix et puis pour les talents français l'opportunité de diversité.
Family Business avec Jonathan Cohen, même par Jonathan Cohen, si je me souviens bien.
Alors c'est une série qui est créée par Igor Gottesman, mais dont Jonathan est de tous les plans.
Voilà, exactement.
Avec Gérard Darmon, Julia Piaton, Liliane Rosberg, ouais. Enfin voilà, avec toute la famille.
Ouais, il se lance dans le business du shit parce que la boucherie ça marche pas bien, si je me souviens bien. J'ai oublié, c'est la boucherie à la base ou pas ?
Exactement, ouais, c'est la boucherie qui devient une boucherie. Voilà. Voilà, et dont on est en train de terminer la saison 3.
Saison 3, il y a une saison 2 de Mortel, il y aura une saison 2 de Planqueur, il y a du cinéma aussi.
Bien sûr, il y a des films, je pense notamment à 8 rues de l'humanité, le film de Danny Boone qui lui aussi est en post-production. Et puis voilà, on a sorti beaucoup de films d'action cette année, c'est quelque chose qui va continuer. On vient de sortir Oxygène d'Alexandre Aja avec Mélanie Laurent il y a un mois. Voilà, on a beaucoup de une offre maintenant qui est riche et à l'image des talents français.
Alors Danny Boone, j'en parle d'un mot de son prochain film, 8 rues de l'humanité, c'est un long métrage qui va raconter la vie des Parisiens pendant le confinement. À ma connaissance, c'est le premier film qui va traiter de ce sujet.
Et alors, vous êtes peut-être mieux renseigné que moi, je pense aussi, mais je ne peux pas être certain.
Voilà. Exactement. Mais il va se passer quoi ? Il y aura des gens chez eux qui ne vont rien faire ? Vont déprimer et boire ?
Il y aura, je crois, toute la comédie burlesque et poétique de Dany dans ce moment dont on a tous des souvenirs plus ou moins bons.
Et alors, moi je pense aux pulls de Noël qui reviennent comme l'Avérole. À partir de novembre-décembre, vous annoncez également une série de Noël.
Exactement, qui sera portée par Chirine Boutella, que vous avez vu dans Le Pain, parce qu'elle joue dans Belkacem.
Elle est extraordinaire, si je puis me permettre.
J'ai autant de plaisir à le dire à la radio que je lui ai dit en vrai. Je suis son premier fan. C'est vraiment une actrice extraordinaire, fraîche, authentique, talentueuse. Voilà. Et donc, effectivement, elle sera au casting de Christmas Flow, qui est notre premier programme de Noël, qu'on a voulu concevoir comme un vrai programme de Noël, mais un vrai programme de Noël français. Voilà, ouais. Donc, qui va nous raconter.
Un programme de Noël français avec un titre anglais, ça s'appelle
Christmas Flow. Et c'est effectivement un titre anglais parce que c'est le titre d'une chanson qu'on verra dans le film.
Quelle est votre philosophie ? Faire des projets très locaux, très franco-français, ou alors directement viser le grand public mondial ?
Non, moi j'ai franchement une préoccupation en tête, c'est les membres de Netflix en France. On fait des histoires pour eux avant tout. Et je pense vraiment que la qualité et l'opportunité de Netflix, c'est que plus ces histoires sont françaises, locales, authentiques, plus elles peuvent résonner dans le monde. Mais ça commence par la France.
C'est ce que disait Marcel Pagnol, et on a vu avec quel succès. Parfois la France vue par Netflix, c'est un peu caricatural. Non. Vous savez à quoi je pense ?
Ouais.
Émilie in Paris, Florilège.
Ouais. C'est incroyable, je bois à 11h.
C'est du Sancerre, le vin du petit déjeuner.
On est fermé ou il y a une fête nationale que je connais pas parce que je suis devant depuis 2h et je...
Qu'est-ce que vous faites là ?
Je suis là depuis 8h30.
Pourquoi ? On n'ouvre pas avant 10h30.
Je rêve d'aménager à Paris pour ainsi dire depuis toujours. En plus, les Français aiment les femmes mûres. Prenez leur président, il est jeune, il est sexy, il a épousé sa maîtresse d'école.
C'est pour ça vous fait sourire, c'est parfois un peu caricatural, non ?
C'est parfois un peu caricatural, c'est de la comédie. Et puis je pense que, d'ailleurs, c'est caricatural autant pour la représentation de la France que des personnages américains. C'est une comédie qui nous raconte finalement les différences culturelles avec du recul et de l'humour. Mais moi ça me fait... D'abord, c'est une série portée par les équipes américaines, hein, c'est pas une série française.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça me fait sourire, notamment cet extrait en VF avec ce petit accent presque poétique.
Il y aura une saison 2 ?
Il y a une saison 2 d'Emilie in Paris en préparation.
D'accord. Dernière en tournage, ouais. Petite question. La loi française a évolué. Les géants du streaming vont être contraints à partir de juillet d'allouer 20 à 25% de leur chiffre d'affaires français à la production locale. Qu'est-ce que ça va changer pour vous ? Est-ce que vous allez tourner des séries et des films français par obligation ?
Ah, vous savez, je prends l'exemple de Lupin, c'est une série qu'on avait engagée avant même l'arrivée de cette nouvelle régulation. Donc nous, notre parti pris a été celui du dialogue, de s'asseoir avec les partenaires publics et professionnels. On est engagé en France, on a ouvert nos bureaux, on investit par choix. Donc c'est surtout cette philosophie qui va se poursuivre dans un cadre réglementaire qui s'élabore dans le dialogue.
Merci beaucoup Damien Couvreur. Je rappelle que vous êtes directeur de la création pour Netflix France. Vous occupez des séries en gros. Et la partie 2 de Lupin, série phénomène avec Omar Sy, ça redémarre demain vendredi. Et toute une rafale de nouveautés qui arrive. Culture Média continue évidemment. Après le rappel des titres de 10h, Eva Rock pour le zapping du lendemain. Bertrand Chameroy pour son écran de veille spécial réouverture. Notre invité, c'est la chanteuse Hélène Segarra. Et puis dans les indispensables, un voyage littéraire sur les chemins de Stevenson. A tout de suite.
Europe 1, Culture Média. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.